Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors, nous regrettons auprès de nos auditeurs notre absence au mois d'août, mais nous n'avions... Certains imprévus ont fait qu'il nous a été impossible d'enregistrer ou d'être en direct le mois dernier. Nous en sommes désolés. Voilà. Alors, autour de moi, pour cette rentrée, notre équipe habituelle, Philippe Christel, bonsoir.
Bonsoir Patrick.
Lucien Valdès.
Bonsoir.
Et Grégoire Gambier.
Bonsoir Patrick, et les auditeurs de Radio Courtoisie.
Ah oui, et puis autrement vos vacances se sont bien passées.
Bah, moi j'étais pas en vacances, contrairement à vous. Ah bon. Apparemment, j'aurais pu assurer l'émission, mais on me l'a pas demandé.
Oui, c'est une façon de voir les choses, ça. Enfin, passons. Pour commencer cette rentrée, nous avons décidé de parler d'une discipline qui nous est chère, c'est la géopolitique. Décriée en France, elle a eu souvent mauvaise presse à droite comme à gauche, considérée comme une discipline allemande, donc forcément suspecte. Mais depuis maintenant une bonne décennie, il y a une expansion de livres, d'articles, d'universitaires qui sont en train de leur donner leur lettre de noblesse à cette discipline. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Gauchon. Pascal Gauchon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous n'êtes pas un inconnu pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes professeur et directeur de Prépasup. Vous êtes également à la tête de la collection Major aux presses universitaires de France. Et vous venez de diriger un énorme dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie au PUF. Alors, c'est un ouvrage admirable, très complet, avec un nombre important d'auteurs. Cela fait facilement plus de 10 ans qu'on n'avait pas mis en place un tel outil. Je pense bien sûr au dictionnaire de notre ami Émeric Choprade et François Tual ou celui de Yves Lacoste. Alors, quelle est la différence avec les autres dictionnaires? Vous avez considérablement élargi les champs de votre dictionnaire.
Oui, je pense que la principale différence, elle est dans la volonté d'avoir toutes les sortes d'entrées et autant d'entrées que possible. Il y a, je crois, environ 750 entrées. Aussi bien sûr, les grands pays, les grands ensembles géographiques et géopolitiques, comme, je ne sais pas, le Maghreb, l'Afrique centrale, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, etc. Les grands auteurs et les grands penseurs de la géopolitique, les grands concepts, comme les concepts de nation, les notions de mondialisation, bon, bien d'autres, les grands acteurs de la géopolitique, y compris les mafias, y compris les médias et l'opinion. Voilà, les grandes notions géographiques, bien sûr, montagnes, fleuves, voilà, c'est vraiment... aussi ouvert, je pense, que possible. Et ça donne une vision assez complète, je crois, de la géopolitique.
Alors, on pourrait peut-être commencer par une définition de la géopolitique. Je sais que c'est toujours assez compliqué. Et surtout, mais comment est-elle née? Et surtout en France.
Alors, la définition, on peut en avoir plusieurs. Je crois que la plus simple, celle que j'aime bien, est la géopolitique, c'est l'étude du rapport de force dans l'espace. Et sur des territoires. Donc l'étude du rapport de force, en précisant qu'il s'agit de toutes les sortes de forces, on pense bien sûr, et c'est un peu la géopolitique traditionnelle, on pense bien sûr aux États-nations, et ils n'ont, contrairement à ce que certains disent, ils n'ont pas disparu, ils continuent à être des forces essentielles au niveau territorial, mais il y a aussi les entreprises, les grandes entreprises en particulier, certaines ont même, d'abord elles ont un pouvoir d'influence sur les États-nations, et puis certaines ont une véritable géopolitique qui leur est propre. On pense justement à l'opinion, on pense aux religions, on pense et aux églises, on pense donc aux mafias, voilà, tous les acteurs possibles qui interviennent dans l'espace, étant entendu bien sûr que l'État-nation reste globalement le plus important.
Alors, je le disais en introduction, la géopolitique a été souvent mal vue en France et a même été quasiment inexistante pendant un siècle. Telle était un handicap pour la France. Cette géopolitique a-t-elle vraiment influencé les anglo-saxons dans leur vision du monde? Et est-ce que la France avait une alternative à cette science?
Alors, il y a quand même une vision géopolitique française assez ancienne, avec des auteurs comme Ancel qui insistait sur l'importance du territoire, l'importance des frontières.
Il faisait de la géopolitique sans le savoir.
Il faisait un peu de la géopolitique sans le savoir. Mais vous savez, la limite effectivement entre géopolitique et études des relations internationales, qui est une discipline beaucoup plus classique, est quand même assez ténue. Disons que la géopolitique ajoute à cela une idée très importante, c'est qu'il y a, et ça c'est probablement les premiers géopoliticiens, les Allemands, qui l'ont apporté, l'idée qu'il y a une âme des peuples et que cette âme des peuples, elle vient en grande partie de leur territoire, et que leur territoire, c'est ce que Aymeric Chopin appelle la notion de territorialité. Il y a une sorte de logique du territoire qui pousse à certains types d'actions. Alors évidemment, il ne faut pas aller jusqu'au ridicule, il ne faut pas en tirer l'idée d'un déterminisme absolu. Il ne faut pas dire que, par exemple, le Japon, sous prétexte que c'est un territoire relativement exigu, très montagneux, avec 10% ou 15% de plaine, était obligé de se projeter vers l'extérieur pendant deux siècles. C'est au contraire refermé sur lui. Donc, il n'y a pas un déterminisme absolu, mais il y a quand même des logiques qui jouent et qui font que la géopolitique n'est pas tout à fait effectivement la même chose que l'étude des relations internationales, et qui font, encore une fois, pour ces premiers géopoliticiens allemands, qu'il y a littéralement une sorte de force qui naît ici et qui oriente la politique des peuples et des nations. Inutile de dire que cette vision des choses n'a pas toujours été, et cette insistance sur l'âme des peuples n'a pas toujours été bien vue effectivement en France. C'est un des éléments qui peut expliquer qu'il y a eu une certaine distance à l'égard de la notion de géopolitique.
Et est-ce que c'est pas aussi le poids de l'histoire? Je me suis aperçu, enfin ça c'est tout le monde s'est aperçu de ça, que quand on est au lycée, les profs d'histoire géo sont tous des professeurs d'histoire et rarement des géographes. Est-ce que on n'a pas un problème avec la géographie? Et le poids de l'histoire qu'on a eu, l'école des annales, etc., et tout, a effacé un peu toute cette géopolitique qui s'est mise en place dans les pays anglo-saxons.
Alors, je dirais oui et non. Je dirais que c'est peut-être plutôt, d'abord, c'est vrai, globalement, longtemps, les professeurs d'histoire-géographie ont été des historiens. Mais il faut savoir qu'actuellement, ça a tendance à se rééquilibrer. Les épreuves du CAPES, de la GREG, ont été rééquilibrées en faveur de la géographie. Et je dirais qu'aujourd'hui, la discipline conquérante, ai-je tendance à dire ça parce que je suis moi-même un historien, discipline conquérante me semble plutôt être la géographie, et c'est plutôt les historiens qui ont l'impression d'être dans une sorte de petit réduit qu'il faut protéger. Donc c'est peut-être en train de changer. Cela dit, je dirais plutôt que c'est un peu l'originalité de la géographie française qui fait que cette géographie était une géographie qui est à la fois étude de la géographie physique et une géographie humaine, ce qui se rencontre moins dans les pays anglo-saxons où les deux disciplines sont beaucoup plus séparées, la géographie physique relevant en général des facs de sciences et la géographie humaine relevant des universités de sciences humaines. Alors du coup, effectivement, peut-être que la volonté de projeter la géographie et d'en faire une explication de la réalité actuelle, une explication du monde, a été moins forte en France à cause de cette prégnance de la géographie physique dans l'enseignement de la géographie. C'est peut-être plutôt ça qui est en question.
Alors, dans un entretien que vous avez donné à la Nouvelle Revue d'Histoire, le dernier en date, le numéro 56 exactement, vous dites qu'elle permet de passer de l'autre côté du miroir. Est-ce que ça serait une solution contre les idéologies et les propagandes?
Ah, oui, dans la mesure où, effectivement, toute analyse géopolitique revient au bout d'un certain temps à privilégier, quoi qu'on dise, la réelle politique. On peut penser à une géopolitique de la morale, des bons sentiments ou, disons, des choses moins polémiques, des droits de l'homme, mais on voit bien que derrière ces discours, très souvent, pour ne pas dire toujours, les intérêts sont présents. Le général de Gaulle disait à propos des États-Unis que c'était un pays particulièrement habile à habiller ses intérêts avec de grands principes, mais il n'y a pas que les États-Unis. Donc, effectivement, la géopolitique nous amène à mieux voir ce qu'il y a derrière les discours officiels, les intentions, et de voir que derrière cela, il y a des intérêts, mais surtout, et c'est quand même l'apport de la géopolitique et de la partie géographique de la géopolitique, mais surtout qu'il y a une constance dans ces intérêts. Ce n'est pas simplement telle ou telle motivation provisoire liée à la présence de tel ou tel parti politique ou à telle orientation actuelle, c'est le long terme, le temps long qui joue et qui explique une partie des choix des pays.
Alors, certains des détracteurs qui expliquent, et parfois on vise juste, que derrière un discours géopolitique, on retrouve une idéologie politique. Alors, prenons par exemple, j'ai pris dans votre dictionnaire la définition de l'eurasisme, qui a été renouvelée par notre ami Alexandre Douguin. Alors, a-t-on affaire de la géopolitique ou à une doctrine politique? Même à ce chapitre dans votre dictionnaire, c'est la réponse de l'auteur et Dominique Hamon, c'est pas tranché, on ne sait pas si réellement l'eurasisme existe sur le plan géopolitique, ou c'est une doctrine idéologique qui a été mise en place?
Non, très clairement, pour l'eurasisme, c'est une doctrine. Maintenant, cette doctrine prétend que l'Eurasie est une réalité qui prime par rapport à d'autres réalités. Et ça, l'Eurasie, c'est une réalité. D'ailleurs, il suffit de regarder une carte. Et c'est tout le problème de l'Europe, c'est que ses limites à l'Est ne sont pas précises. Et disons, pour mieux dire les choses, qu'elles ont été inventées avec la barrière de l'Oural à l'époque de Pierre le Grand. Pierre le Grand voulait absolument démontrer que la Russie était un pays européen. Donc il a cherché une frontière, il a fait établir par ses géographes une frontière une limite de l'Europe qui permette à la plus grande partie de la Russie utile de faire partie de l'Europe. Les Grecs, quand ils parlaient de l'Europe autrefois, arrêtaient l'Europe de façon aussi imprécise d'ailleurs, mais l'arrêtaient en gros au niveau à peu près de l'Ukraine actuelle, le pays des Scythes, hein, donc un peu imprécis, un peu vague, mais ils n'englobaient certainement pas tout ce qui est aujourd'hui la Russie jusqu'à l'Oural. Donc l'Europe est évidemment une création, alors, correspond à une réalité, mais un peu une création artificielle. Il suffit de regarder une carte pour bien voir que l'Eurasie est une réalité. Le problème, alors ça, on peut le démontrer, on peut en tirer du coup un certain nombre de conclusions. Le problème, et ce qu'affirment les eurasistes, c'est que l'Eurasie est une réalité qui prime par rapport à toutes les autres. Par exemple, il y a un courant qui est évidemment le courant tout à fait opposé auquel s'opposent les oralistes, qu'on pourrait appeler les occidentalistes, ceux qui proclament que l'Occident est une réalité autour de l'océan Atlantique. Et que ce qui prime n'est pas la logique des terres, l'Eurasie, mais la logique des mers, la logique des océans, l'Atlantique. Voilà. Alors, à partir de là, effectivement, chacun peut se faire son idée, et c'est pourquoi l'auteur, à juste titre, dans le dictionnaire, n'a pas jugé utile de dire que c'était stupide ou intelligent.
On parle souvent, pour chaque grand pays développé, d'une école de géopolitique. On parle de l'école allemande, anglaise, américaine. A-t-on, comme en économie, des écoles transnationales, ou c'est impossible? Est-ce que chaque pays, chaque nation a sa vision de la géopolitique?
Ben, il y a quand même, justement, vous l'avez dit, une école anglo-saxonne. Qui concerne aussi bien des auteurs américains que des auteurs anglais. Il y a donc quand même déjà une forme de transnationalité, si on admet que les États-Unis ne sont pas tout à fait le Royaume-Uni, ce qui est vrai.
Ouais.
Maintenant, au-delà, oui, bien sûr, simplement la géopolitique, je pense, discipline trop jeune pour avoir encore réellement pu établir des écoles transnationales.
Alors, on va parler de l'Europe, on peut pas s'arrêter sur la France sans parler d'Yves Lacoste, qui a été l'un des précurseurs,
bien sûr,
quasiment seul à un moment avec sa revue Hérodote. Qu'a-t-il apporté à la géopolitique française et sur le plan même de la géopolitique générale?
Très concrètement, il l'a réhabilité. On a dit tout à l'heure que la géopolitique avait souffert de ses origines allemandes, en tout cas en France. Elle a souffert d'un deuxième élément, c'est que l'autre très grande école géopolitique, qui elle justement insistait non pas sur les terres, mais insiste sur les mers, ce qui est assez logique, c'est l'école anglo-saxonne. Donc la géopolitique était censée être responsable à la fois de l'expansionnisme allemand et de l'impérialisme américain. Ça faisait beaucoup pour un seul homme, si on peut dire, et pour une seule discipline. Ce qu'a apporté Lacoste, c'est un regard honnête qui fait que c'était un homme qui est venu de gauche. Et cet homme de gauche a commencé à s'intéresser à la géopolitique et a dit c'est une discipline qui apporte quelque chose, qui renouvelle la géographie. Je crois que ça a été très important pour les géographes.
Il était très critique sur les géographes.
Il a été assez critique sur les géographes parce que justement il pensait que la géographie avait besoin de se renouveler, d'intégrer de nouvelles notions et d'intégrer surtout de nouvelles préoccupations. Et indiscutablement c'est lui qui a contribué très fortement à la réhabilitation de la géopolitique en France. Et puis il y a une autre raison qui a réhabilité la géopolitique, tout simplement, en dehors de l'île d'Acoste, c'est le besoin. C'est que, de plus en plus, dans les milieux militaires, par exemple, dans les milieux d'entreprise, on s'est mis à comprendre qu'on ne pouvait pas agir dans le monde sans essayer de comprendre un petit peu la réalité de ce monde. Et la géopolitique est une des façons de comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a peu d'ouvrages, mais bon, je ne suis pas un spécialiste, sur une vision géopolitique de l'Europe. Alors, j'ai en souvenir le bouquin du général Jordis van Nauwesen sur les empires et la puissance, mais ça date déjà de 79. Peut-on avoir réellement une vision géopolitique de l'Europe? Bien, dans l'ensemble.
On a vu un des problèmes majeurs. Il y a deux raisons pour lesquelles une vision géopolitique de l'Europe est difficile. Trois raisons même. La première, c'est qu'effectivement, c'est d'une certaine façon un concept flou dont les limites ont varié selon le temps. Deuxième élément, c'est que l'Europe est fille peut-être de l'histoire plus que de la géographie. L'Europe, d'une certaine façon, est réellement née avec l'islam, je dirais presque grâce à l'islam, quand l'islam a cassé l'unité du monde méditerranéen. Avant, l'entité géopolitique, c'est bien plus le monde méditerranéen que l'Europe, qui n'a vraiment aucune unité. Bon, on ne voit absolument pas quel peut être l'avenir commun au 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, entre les forêts scandinaves et les mers de Grèce et les Cyclades. C'est vraiment l'islam qui a contribuer à faire que l'Europe se détourne du monde méditerranéen, partiellement bien sûr, mais en tout cas, ne soit plus que le flanc sud de l'Europe ne soit plus prioritairement une partie du monde méditerranéen, mais qu'elle prenne son autonomie. Alors ça rend effectivement la géopolitique, je dirais, un peu plus complexe. Et puis le troisième élément, c'est probablement l'existence des États-nations. Alors est-ce qu'il faut là aussi faire intervenir la géographie? Noter la variété particulièrement grande en Europe des paysages, noter l'indentation des reliefs liés à une autre caractéristique de l'Europe, l'influence de la mer. Il n'y a aucun autre continent en dehors de l'Asie orientale où la mer est aussi présente et est aussi influente. En tout cas, cela a pu pousser, si vous regardez bien une carte de l'Europe, c'est tout simple, au milieu, un pivot. Le centre de ce pivot, c'est la Bohème. Bismarck disait « qui tient la Bohème tient l'Europe ». Autour, le pivot en tant que tel, disons le monde germanique pour simplifier, et autour toute une série de péninsules. Scandinave, plus qu'une péninsule, une île, bien sûr les îles britanniques, péninsule espagnole, ibérique, péninsule italienne, péninsule balkanique. Tout ça évidemment a favorisé sans doute une division ancienne de l'Europe en mondes différents et a peut-être favorisé aussi l'émergence d'États-nations qui évidemment rendent difficile une géopolitique globale de l'Europe. Il y a une géopolitique de la France, même si bizarrement il y a très peu d'ouvrages qui ont été rédigés sur ce sujet. Peut-être que les auteurs français craignent d'être obligés de faire un livre trop bref. Il y a des géopolitiques du Royaume-Uni, des géopolitiques abondantes de la Russie. Il n'y a effectivement quasiment pas de géopolitique de l'Europe. Ou alors, mais on rentre dans une logique un peu différente, il s'agit de géopolitique interne qui analyse l'évolution de l'espace européen, en particulier du fait de la construction européenne et les rapports de force entre les régions européennes avec l'émergence de nouveaux centres, éventuellement polarisation sur de nouveaux centres. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Celle-là, elle est possible et elle est faite. L'étude des régions européennes, elle est abondante. Mais effectivement, sur une vision globale de la géopolitique européenne à l'intérieur du monde, il y a très peu de choses, tout simplement parce que jusqu'à présent, et ce n'est pas l'Europe telle qu'elle existe qui risque de changer cela pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'actions géopolitiques de l'ensemble européen, en commun. Genre.
Grégoire Gambier.
Oui, vous avez simplement signalé l'importance, le rôle de l'islam pour rebattre les cartes de la géopolitique européenne, c'est-à-dire casser l'unité du monde, enfin du bassin méditerranéen. Une vision un peu irénique qui a cours dans certains milieux voudrait que l'islam ait aussi contribué à façonner la conscience de soi de l'Europe, au-delà des contingences étatiques, pour faire bref. Et un mot que vous n'avez pas prononcé jusqu'à présent, justement, c'est, à propos de conscience de soi, c'est l'identité, l'importance de l'identité comme facteur géopolitique qui avait été mis en valeur par François Attual. Donc est-ce que vous y croyez comme moteur de la géopolitique ou est-ce que vous êtes assez circonspect, notamment du fait de l'histoire de l'Europe, puisqu'on sait bien que certaines nations européennes ont préféré l'Alliance ottomane, par exemple, à une époque, plutôt que la solidarité européenne?
Bon, bien évidemment, à partir du moment où l'on admet que la géopolitique est entre autres l'action de peuples influencés par des très forts de leur milieu et de leur espace, qui est un peu la définition encore une fois originelle, ou la vision originelle de la géopolitique allemande, on ne peut qu'insister sur la notion d'identité. Et puis il y a une autre chose qui va tout à fait dans ce sens, c'est la notion justement rapport de force, rapport de puissance. Or, la puissance n'est rien sans la volonté d'exercer cette puissance. Et pour que la volonté existe, il faut qu'il y ait effectivement un minimum de sentiments qu'on a le droit d'agir et que l'on peut agir. Donc, il faut un minimum de sentiments identitaires.
Alors, il y a un autre pays qui a utilisé très souvent la géopolitique, c'est les États-Unis. Alors, l'un des plus intéressants est peut-être le travail de l'amiral Mahon, c'est ça, Mahon,
bien sûr,
qui va avoir une influence considérable sur la politique américaine et sa sortie de la doctrine isolationniste. J'ai pas l'impression qu'il y a un équivalent en Europe, c'est-à-dire cette prise de conscience. Ça a été une grosse influence aux États-Unis sur reprendre le modèle anglais et le mettre dont la puissance maritime. J'ai pas l'impression qu'en Europe des géopoliticiens ont eu cette influence sur les gouvernements et les attitudes de politique.
Alors, sur certains pays, toujours difficile de dire s'ils ont une influence ou s'ils traduisent une série de sentiments et d'orientations qui sont dominantes à l'époque et qui les influencent en même temps qu'ils influencent les dirigeants. Mais enfin, dans le cas allemand, indiscutablement, la vision et des géopoliticiens allemands a eu une influence sur la politique des dirigeants allemands. Quand même, la notion d'espace vital vient des géopoliticiens allemands et l'idée que le peuple allemand
On l'a sans doute détourné,
bien sûr. Mais l'idée que le peuple allemand doit effectivement chercher, entre autres, reprendre l'ancienne marche vers l'Est, qui d'ailleurs était au Moyen-Âge une marche vers l'Est tout à fait pacifique, absolument pas de conquête, essentiellement faite par des paysans qui s'installaient partout où on les faisait venir en plus.
Ou quelques chevaliers teutoniques quand même.
Peut-être un peu plus brutal, effectivement, oui, dans le
vers
nord.
La Baltique,
effectivement,
oui.
Vers la Baltique, peut-être un peu plus rigoureux.
Le climat se prête à l'exercice.
C'est vrai. C'est probablement. Mais globalement, donc, l'idée qu'il fallait reprendre cette marche vers l'Est, indiscutablement, il y a eu une influence. Simplement, il n'y a pas eu d'influence, encore une fois, à l'échelle européenne. Hein, c'était votre question. Tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Europe n'existe pas. Et il n'y a pas réellement de politique extérieure commune, en dépit des sigles PESC, PESD, etc., qu'on peut multiplier. Pour l'instant, il n'y a évidemment pas de politique extérieure commune réelle. On l'a bien vu encore avec l'affaire de Libye, où ce sont des États-nations qui ont agi, et absolument pas l'Europe en tant que telle.
Vous apercevez qu'il y a une sorte de mutation dans la géopolitique, c'est-à-dire que les bases de départ, on est parti sur d'autres théories et on s'aperçoit que certains s'étaient trompés. Est-ce que c'est vivant? On a l'impression presque que c'est figé, la géopolitique.
C'est à la fois figé, non figé. Le grand changement qui s'est produit depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, c'est justement la volonté d'introduire d'autres acteurs que les nations et États, qui restent, je le répète, l'acteur principal, mais d'introduire d'autres acteurs. Et puis, ce qui a renouvelé un peu la notion de géopolitique, ce qui la complète justement, et c'est le corollaire, c'est la notion de géoéconomie. Elle vient là à nouveau des États-Unis, de Ludwig entre autres, à la fin des 1990 à peu près, donc c'est quelque chose de tout à fait récent. Et l'idée est toute simple, toute bête. L'idée, c'est que dans la mesure où l'affrontement entre les États-nations peut difficilement maintenant prendre la forme d'une guerre totale, l'arme nucléaire rendant cela difficile. Ça n'empêche pas des guerres périphériques, ça n'empêche pas surtout des guerres asymétriques, mais la guerre entre deux très grandes puissances à l'échelle mondiale utilisant à fond leur arsenal nucléaire paraît extrêmement peu probable. À partir de ce moment-là, les conflits se déplacent sur autre chose et se déplacent en partie sur le terrain économique. Donc la géoéconomie amène à prendre conscience que la puissance, ça n'est pas simplement le contrôle des territoires, mais c'est aussi le contrôle des réseaux, des éléments fluides, je dirais, de la planète. Autrefois les océans, maintenant les flux de communication, les flux de capitaux. Donc une sorte de modernisation de la notion de thalassocratie, qui n'est très ancienne, bien sûr. Et d'une certaine façon, c'est déjà un peu à l'origine de la pensée de Mahan et de bien d'autres auteurs auparavant même qui ne se savaient pas géopolitologues. Mais l'idée, voilà, que les changements politiques d'une part, techniques de l'autre, font que les racines de la puissance sont peut-être ailleurs. Si, il y a quand même beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions. Mais sur la notion de départ, hein, tel que je l'ai défini, c'est la base même de la géopolitique. Si on change ces notions de départ, le rapport de force dans l'espace, l'idée qu'il y a une logique des territoires et des milieux, si on enlève cela, ce n'est plus la géopolitique, c'est autre chose.
Alors, effectivement, aux États-Unis, il y a une profusion d'auteurs de géopolitique. Alors, vous en citez certains. Ce qui m'a été étonné, c'est de voir des gens comme Huntington ou Brzezinski cités, qui sont quand même des gens qui ont une vision différente dans leurs livres. Est-ce que là, on n'a pas affaire à une sorte de séparation de la géopolitique américaine ?
Ah, on a effectivement peut-être... les mêmes analyses sur le rapport de force, mais des conclusions différentes sur les évolutions souhaitables et sur les évolutions possibles. Dans un cas, effectivement, l'espoir que le dialogue des civilisations, selon une formule mise à l'honneur en France, s'imposera. Dans l'autre, l'idée que le choc et le conflit des civilisations est inévitable.
C'est-à-dire que c'est plus de la géopolitique à ce niveau-là.
Toujours pareil, c'est deux distinctions à faire dans la géopolitique. La distinction analyse et la distinction conclusion à en tirer. Effectivement, dans les conclusions à tirer de la géopolitique, là, il peut y avoir divergence. D'ailleurs, dans les analyses aussi, il peut y avoir divergence. Mais à plus forte raison, dans les conclusions à en tirer, il peut y avoir divergence et on peut se demander si on est tout à fait dans la géopolitique. En tout cas, on n'est pas dans la géopolitique analyse.
Grégoire Gambier.
Oui, vous restons aux États-Unis. Vous êtes un fin connaisseur de ce pays, Pascal Gauchon. 10 ans après les attentats du World Trade Center, enfin du Centre Mondial du Commerce, pardon, pour Radio Courtoisie, Philippe Christel, je me corrige et je mettrai un euro. Est-ce que vous partagez le point de vue de certains auteurs, bon, qui sont pas forcément dominants, hein, puisqu'on a encore eu droit au discours, nous sommes tous américains. 10 ans après, bon, qui est un discours. Ah, géopolitique, j'ai envie de dire, mais certains auteurs plus critiques, comme récemment Olivier Zajec, avec la nouvelle impuissance américaine, estiment que Washington a définitivement perdu la main, son leadership, comme ils disent, donc je mettrai un deuxième euro, dans la conduite des affaires du monde, et donc que le 21e siècle ne sera pas américain. Est-ce que vous partagez cette analyse très critique, ou pensez-vous que c'est un pays qui a encore du ressort pour différentes raisons, et notamment en contrôlant davantage la géo-économie que la géopolitique.
Il parle même d'un nécessaire travail de deuil géopolitique.
Qui ça, il ?
Les Américains. Il va falloir qu'ils en fassent leur deuil.
Et Olivier Zajac, vous voulez dire dans son livre ?
Oui, dans son livre. Pascal Gauchon.
Je ne sais pas s'il faut faire son deuil. Je vais essayer aussi, c'est toujours difficile quand on parle des États-Unis, de ne pas remplir exagérément la tirelire de Radio Courtoisie. Oui. Donc, de ne pas me ruiner totalement ce soir. Mais non, je pense que évidemment, en géopolitique et en général en analyse, on passe en permanence d'un excès à l'autre. Moi, dans ma courte vie quand même d'enseignant et d'analyste, je suis passé par des périodes où les États-Unis, années 70, étaient complètement sur le déclin, allaient être écrasés par l'URSS, avaient perdu la main, etc. Ah, la renaissance des États-Unis, spectaculaire, America is back, voilà, ça en fait trois d'un coup, de Ronald Reagan au début des années 80. Puis, un nouveau déclin à la fin des années 80, sous le coup d'une récession, des problèmes déjà, de l'endettement et de certaines institutions financières. Et puis, l'apogée, évidemment, avec l'effondrement de l'URSS. Puis, une nouvelle... Bon, voilà, on ne cesse de passer par des hauts et des bas. Le plus remarquable étant peut-être aussi le Japon. Bon, c'est justement là ce que doit nous apprendre la géopolitique. C'est apprendre de la distance, que j'appelais passer de l'autre côté du miroir. C'est aussi prendre de la distance. Alors, si on prend de la distance, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que, bien sûr, il y a eu un retour à la normale par rapport à une situation d'après 45 qui était anormale. Prenons un chiffre très simple, la part dans le PIB mondial. Ce n'est pas un indice suffisant, bien sûr, de la puissance, mais ça a le mérite de la simplicité. En 1930, les États-Unis font le quart du PIB mondial. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la moitié. au début, fin des années 70, un peu moins du quart. Aujourd'hui, ils sont à 22%. Bon. Si on voit ceux qui ont vraiment baissé dans la part du PIB mondial depuis 1980, c'est bien plus l'Europe qu'il faut regarder, puisque pendant ce temps-là, les pays émergents ont émergé. C'est bien plus l'Europe pour laquelle il faut s'inquiéter. Mais globalement, on a plutôt le sentiment d'un retour anormal. On avait, au lendemain de 45, une situation anormale. Les États-Unis représentaient la moitié du monde. On revient, après un lent rattrapage par l'Europe et le Japon, puis l'émergence peu à peu de certaines puissances, on revient un peu moins du quart de la puissance mondiale. Et globalement, les États-Unis gardent aujourd'hui un peu moins du quart de la puissance économique mondiale. Voilà. Voilà plutôt le premier sentiment que j'ai. Deuxième élément, que les États-Unis, il y a eu une exagération évidemment autour de la notion d'hyperpuissance. Les États-Unis n'ont jamais été une hyperpuissance et jamais ils n'ont eu les moyens de faire rigoureusement ce qu'ils voulaient, même après 1991. Alors, du coup, on redécouvre que cette hyperpuissance n'était pas une hyperpuissance et on en conclut qu'il y a un déclin américain ou une crise américaine. Non, il y avait une erreur de l'analyse faite en 1991. C'est pas la preuve d'un recul américain, c'est la preuve d'un échec des analystes à propos de l'année 1991 et la suite immédiate de 91. Enfin, je dirais que les États-Unis sont surtout forts d'une chose jusqu'à aujourd'hui, ils sont les premiers par défaut. Ils sont les premiers par défaut dans la mesure où, bien sûr, on va leur chercher des rivaux. Mais l'Europe, il y a encore pas très longtemps, au début des années 2000, quand se crée l'euro, certains nous annoncent que l'euro va détrôner le dollar. Bon, on voit où en est l'euro aujourd'hui, et donc le dollar reste la monnaie de l'économie mondiale par défaut. Le dollar inspire peut-être de moins en moins confiance, le dollar se déprécie, perd de sa valeur, ce qui est bien le signe d'ailleurs qu'il inspire un peu moins confiance quand même, mais je dis se déprécie sur le long terme, variations quotidiennes n'ont pas d'importance, mais globalement, il n'y a pas de solution alternative. Alors, sur un plan plus géopolitique, voire économique, on parlera de la Chine. C'est quand même oublié que la Chine, dont on nous prédit que le PIB atteindra le PIB américain quelque part aux alentours de 2035-2040, sera équivalent au PIB américain. N'oublions pas d'abord que ça sera le même PIB global, peut-être, mais que ça ne sera évidemment pas du tout le même PIB par habitant, donc pas du tout le même degré de développement. Et puis, deuxième élément, la Chine elle-même a quand même des faiblesses auxquelles on pourrait s'intéresser. Un jour, là j'en fais le pari immédiatement, et je veux bien remplir à nouveau la cassette de Radio Courtoisie pour ce pari, un jour, dans 2 ans, 5 ans, 8 ans, tout le monde va découvrir qu'il y a une crise chinoise, que la Chine a des faiblesses profondes, et à ce moment-là, certains nous expliqueront, la Chine c'est fini, la Chine... Bon, la Chine ne sera pas finie non plus. Les bases de la puissance qu'elle a établies depuis 1979 ne sont pas des bases superficielles, elles sont profondes, les atouts de la Chine sont profonds. Simplement, il ne faut pas croire que la croissance chinoise va continuer au rythme de 10% l'an éternellement jusqu'à la fin des temps. Auquel cas, sans ça, c'est la Chine qui représentera non pas 50%, mais 99,9% du PIB mondial. Ça n'est pas très sérieux.
Grégoire Gambier.
Oui, je voudrais juste revenir 2 minutes sur les États-Unis, puisque c'est un peu l'actualité éditoriale, géopolitique et géostratégique, en tout cas du moment. C'est un terme qu'on n'a pas encore évoqué, puisqu'on a tout de suite renvoyé vers la géoéconomie avec les chiffres du PIB de la Chine. Parce que c'est un cas qui peut être intéressant pour les auditeurs de Radio Courtoisie pour mieux comprendre peut-être la dialectique interne de la géopolitique, puisqu'on a un cas, enfin c'est... puisque c'est l'espace et l'histoire, pour tout dire, la géopolitique. On voit bien que les États-Unis ont, en termes d'espace, je ne parle pas de territoire, d'espace, évidemment, toutes les données en main pour être une grande puissance, mais en termes d'histoire, des faiblesses peut-être intrinsèques et quelque chose d'assez juvénile, une lecture très idéologique des rapports de force, justement, qui est en rupture avec la géopolitique. Donc, pour faire court, ma question, c'est est-il possible pour une puissance, telle qu'elle soit, une fois de plus avec la grille géopolitique, d'allier des atouts en termes d'espace, de richesse, objectifs, et une faiblesse, parce qu'une jeunesse, en termes de profondeur historique. Est-ce que ce n'est pas antinomique avec un vrai poids géopolitique?
Je ne suis pas sûr que cette jeunesse soit une faiblesse obligatoirement. On parlait tout à l'heure du sentiment identitaire. il y a jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça durera avec en partie les changements de la population américaine?
C'est pas ce que pense Huntington.
Mais bien sûr, dans son dernier ouvrage, bien sûr. Oui. Mais il y a aujourd'hui un véritable patriotisme américain qu'on a vu éclater en particulier le 11 septembre, justement. Il y a une conscience de soi américaine, elle paraît indiscutable. Et la jeunesse des États-Unis et le fait, c'est une chose un peu exceptionnelle aussi pour un pays qui est peut-être un des fondements de la puissance américaine, que les États-Unis ont une date de naissance précise. La date de naissance de la France, justement, elle est l'objet d'un combat idéologique entre ceux qui parlent du baptême de Clovis et ceux qui parlent de la Révolution française, qui est bien représentative des divisions de la société française et peut-être du coup de problèmes en termes de conscience de soi de la France. Les Américains, ils n'ont pas ce problème. Ils ont une date de naissance précise, celle de la Déclaration d'indépendance, une date de naissance, tous s'y réfèrent. Et c'est peut-être plutôt un élément de force, paradoxalement, que cette jeunesse qui fait justement qu'ils ont une date précise. Par ailleurs, pour continuer sur l'irénisme américain, encore une fois, il faut se souvenir de la formule du général de Gaulle. Un pays habile a habillé ses intérêts avec de grands principes. Les États-Unis sont aussi, me semble-t-il, une puissance assez exceptionnelle dans la mesure où ils sont capables d'associer des couples antinomiques. Ça me semble être la première puissance dans l'histoire à être capable de faire cela. Ils sont à la fois riches d'un territoire qui est un facteur de force pour eux important, ne serait-ce que par les ressources multiples qu'il contient. Le foot power américain, on redécouvre toute l'importance de celui-ci. Bon, ça vient du territoire. Et ils sont une thalassocratie moderne au cœur de tous les réseaux mondiaux, de tous les aspects fluides de la planète. Ils sont un pays extrêmement pragmatique, pour ne pas dire intéressé à certains moments, pour ne pas dire cynique. Et en même temps, ils sont un pays extrêmement moralisateur, et je dirais non seulement moralisateur, mais moral. Persuadé de certaine façon qu'il agit moralement, y compris quand il agit pour ses propres intérêts. Condoleezza Rice avait une jolie formule pour dire cela. Elle disait que la politique américaine était marquée par un idéalisme pragmatique. Enfin, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un idéalisme pragmatique, mais les Américains le savent. Et c'est le plus
c'est
important.
Un pragmatisme un peu idéaliste. En fait.
Voilà, c'est sans doute cela. Mais eux, ils le savent et ça leur donne une force. Voilà, il me semble que ces couples font de la puissance américaine une puissance tel qu'il n'y en a, me semble-t-il, jamais eu tout à fait dans l'histoire. Alors, bien évidemment, pour revenir sur l'ouvrage d'Olivier Zajec, qui est par ailleurs excellent, bien évidemment, la puissance américaine ne durera pas éternellement. Et si les Américains le croient, là, il ferait mieux de revenir aux racines bibliques de leur pays et de relire un peu la Bible. Donc, elle ne durera pas éternellement, bien évidemment. Bien évidemment, c'est une puissance qui est affaiblie, mais ce qui me semble le plus important, c'est que c'est une puissance par défaut. Qui va contester la première place des États-Unis? Voilà, c'est la seule question qui me semble vraiment importante.
Lucien Valdès.
Vous parliez d'un sentiment national très fort aux États-Unis. Comment vous observez ce qui se passe au Texas, où, par exemple, le gouverneur, Rick Perry, qui est candidat à la candidature.
L'investiture. C'est au Parti socialiste qu'on est candidat à la candidature.
A quand même appelé à la sécession.
Oui. Je ne pense pas que ce soit des choses extrêmement sérieuses. Tout à dire, il y a toujours un patriotisme, effectivement, local aussi, qui est extrêmement fort. Vous savez bien qu'aux États-Unis, on vote beaucoup plus pour les élections locales, par exemple pour élire son gouverneur, le gouverneur de l'État, que pour les élections nationales.
Donc pas de sécession du Texas.
Mais au Texas, je pense que, comme je ne connais pas spécialement cet État, mais que dans tous les États américains, devant toutes les maisons, il y a le drapeau américain qui flotte. Parfois un peu le drapeau sudiste sur certaines, peut-être, je ne suis même pas tout à fait certain, mais en revanche, la bannière étoilée, j'en suis absolument sûr.
Alors, ce qui est intéressant dans votre dictionnaire, parce que comme on est sur les États-Unis, c'est que vous avez fait rentrer des notions qui effectivement sont un peu nouvelles. Il y en a une qui est un peu plus ancienne, c'est les routes de l'énergie, l'importance de l'énergie et de ses ressources, et aussi les routes de l'information et d'Internet. Vous mettez les chaînes de télévision importantes comme Fox, CNN, etc. Qu'est-ce que ça a joué depuis les 10 ou 20 dernières années sur le plan géopolitique?
Alors, c'est l'irruption, là comme dans bien d'autres domaines, d'un acteur sur lequel, je crois, rien jusqu'à présent n'est écrit sur un plan géopolitique. Et c'est pourquoi on a tenté une petite approche dans ce dictionnaire avec différentes entrées. Un acteur majeur, là comme dans d'autres domaines, c'est l'opinion. Et l'opinion, c'est un acteur fascinant de la vie politique en général, de la géopolitique entre autres, parce que c'est à la fois un acteur et c'est en même temps un enjeu. que tentent de conquérir les États, tentent de convaincre, etc., que tentent de conquérir les médias, que tentent de, mais les médias eux-mêmes sont au service d'autres forces éventuellement, que tentent de conquérir les États en place et éventuellement des États étrangers, que tentent de maîtriser les idéologies, les partis, éventuellement les églises. Voilà, le rôle de l'opinion est tout à fait décisif. Alors, et il devient de plus en plus important. On voit que de plus en plus, pour agir à l'extérieur, les gouvernements ont besoin d'avoir le soutien de leur opinion et s'efforcent de l'avoir avant, y compris en disant n'importe quoi, et ensuite pendant les opérations, y compris en muselant la presse ou en l'abusant si nécessaire. C'est le grand changement, là, il est clair, c'est la guerre du Vietnam. Les Américains ont compris qu'ils avaient perdu, les dirigeants américains ont compris qu'ils avaient perdu la guerre du Vietnam beaucoup plus dans les postes de télévision que dans les rizières, ou disons autant dans les postes de télévision que dans les rizières. Bon, ils l'ont compris, on a bien vu qu'avant l'intervention en Irak, l'opinion américaine, pour ne pas dire l'opinion mondiale en général, a été préparée avec des manipulations, on le sait aujourd'hui, des manipulations complètes des informations de manière à justifier l'intervention. Et ensuite, on sait bien aussi comment maintenant les journalistes sont amenés là où on veut les amener pour voir ce qu'il faut leur montrer, etc. Mais attention, je ne voudrais pas dire que il n'y a que les États qui manipulent l'opinion. La presse, encore une fois, il y a une presse qui sert les intérêts des États, consciemment ou non consciemment, mais il y a aussi une presse qui peut servir d'autres intérêts étrangers ou qui peut servir des idéologies. Voilà, il n'y a pas que les États-nations, encore une fois, qui peuvent manipuler cette opinion.
Vous pensez, par exemple, dans les révolutions arabes, on a parlé énormément du rôle de la chaîne Al Jazeera, qu'elle a eu une véritable influence sur, ou en tout cas qu'elle a été un acteur vraiment sur ces révoltes arabes.
Toujours pas. Elle a évidemment été un acteur. Le fait est que ce ne sont pas les révoltes de la rue qui ont emporté la décision dans aucun des cas. Il a fallu qu'une partie de la classe dirigeante en place bascule pour des raisons multiples. Simplement, ce basculement, ces gens qui ont basculé ne l'auraient probablement pas fait s'ils n'avaient pas eu le sentiment que une bonne partie de l'opinion, sinon l'opinion en général, les soutiendrait et que ça leur permettrait de conserver leur place en un moment qui pouvait être difficile et délicat.
Grégoire Gambier.
Oui, juste sur le temps court hein, qui est le propre des démocraties d'opinion. Justement, là aussi, j'ai l'impression que ça heurte potentiellement les fondamentaux de la géopolitique, plutôt sur le temps long, bien sûr, les constances, comme vous l'avez indiqué en début d'émission. Donc, ma question est double. Un, c'est comment techniquement la géopolitique perdure-t-elle dans les démocraties d'opinion, objet du temps court par excellence, enfin, otage, pardon, du temps court. Et deux, plus précisément, avec cette grille d'analyse, comment interpréter au sens géopolitique, au sens des intérêts géopolitiques, les interventions françaises, par exemple en Libye ou en Afghanistan ?
Alors, justement, ce que vous dites, ce heurt entre temps court et temps long, conduit justement les États-nations à vouloir reprendre en main l'opinion, contrôler l'opinion, de manière à se faire l'opinion dont ils ont besoin, pour justifier des interventions qu'ils estiment nécessaires. Ça, je dirais que c'est un peu la vision idéaliste des choses, parce qu'il y a, justement, les États-nations ne sont pas les seuls à faire l'opinion, et dans la mesure où d'autres puissances peuvent agir, dans la mesure où des idéologies peuvent agir, à ce moment-là, les États-nations sont un petit peu dépendants de l'opinion. Bon, dans l'affaire, très concrètement, de Libye, puisque c'est elle la plus intéressante, on voit bien que de multiples éléments ont joué dans la décision française d'être en première ligne. D'abord, se rattraper un petit peu des ratés de ce qui s'était passé en Tunisie, où, on peut le dire, les géopolitiques français du Quai d'Orsay, d'ailleurs, n'avaient rien vu venir. Je n'ai pas vu beaucoup d'articles annonçant auparavant, et beaucoup d'études, y compris de moi-même, d'ailleurs, annonçant que le régime tunisien était menacé et allait bientôt s'effondrer. Donc, il avait la volonté de se rattraper. Il y a évidemment des arrière-pensées politiques françaises qui sont assez évidentes. Donner à Nicolas Sarkozy une stature de président, enfin, ou conforter la stature de président de Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a alors là des intérêts géopolitiques. De ce point de vue-là, la France fait, en l'occurrence, comme les États-Unis, et j'ajouterais, elle a raison, avec une nuance, parce qu'il n'y a pas que les intérêts économiques à court terme, la France habille ses intérêts en Méditerranée avec de grands principes, les droits de l'homme. Et ses intérêts, c'est d'essayer de récupérer une partie du pétrole libyen. libyen, on dit que l'accord serait déjà établi et qu'un tiers du pétrole libyen, maintenant, sera exploité par les compagnies françaises, par Total en particulier. Nous verrons bien. Si nous réussissons cette opération, nous aurons fait pour une fois comme les Américains. Alors maintenant, il n'y a pas, bien sûr, que l'économie. On peut se demander si on a vraiment intérêt à déstabiliser complètement un pays et si, en face de nos rivages, nous voyons se développer un phénomène du type Somalie. Est-ce que la France sera vraiment gagnante? Et même, d'ailleurs, tout simplement, est-ce que notre pétrole sera exploitable? On aura peut-être un tiers du pétrole libyen, mais si, pour aller l'exploiter, il faut passer entre des dizaines de tribus qui massacrent et qui, éventuellement, enlèvent tous nos ingénieurs pour en tirer rançon, bon, le gain ne sera peut-être pas très évident. Voilà.
Philippe Christel.
Oui, vous parliez de Total. Il y a un autre acteur sur lequel vous mettez l'accent dans ce dictionnaire, qui sont les entreprises. D'ailleurs, c'est vous qui signez la notice sur ce que vous appelez les firmes multinationales. Mmh. Et donc, vous avez d'ailleurs, me semble-t-il, une approche relativement pondérée sur le sujet. Ce ne sont pas les grands acteurs géostratégiques que l'on veut bien décrire parfois, écrivez-vous. D'un autre côté, sur un certain nombre de thématiques, notamment la fameuse guerre des gazoducs, on voit bien que ce sont les grandes compagnies pétrolières ou gazières d'États européennes, allemandes, italiennes, françaises, qui mènent une politique inverse de ce que Bruxelles voudrait faire, hein, entre South Stream et Nabucco notamment. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la place que vous accordez à ces grands acteurs internationaux?
Alors, il y a évidemment tout une myriade d'entreprises. Je dirais qu'en matière de géopolitique, il y a quelques entreprises qui sont effectivement tout à fait déterminantes, dans la mesure où elles sont situées sur des secteurs clés, vitaux, pour les États-nations, en particulier pour l'économie des États-nations. Alors, ces secteurs, ils ne sont pas extrêmement nombreux. Il y a évidemment tout ce qui est les approvisionnements en matières premières, et en particulier en énergie. Il y a les technologies de pointe, dont dépend de plus en plus aujourd'hui l'armement. Et puis voilà, c'est les deux principaux, me semble-t-il. Alors, ces acteurs agissent de différentes façons. D'abord, ils ont effectivement leur propre logique, leur propre stratégie. Et ils tissent des liens entre eux. Éventuellement même, ils établissent des relations avec des gouvernements étrangers. Éventuellement même, ils agissent dans certains pays de manière à préserver leurs intérêts. On a beaucoup dit, par exemple, que Elf Aquitaine avait... on peut en dire du mal aujourd'hui, puisqu'elle n'existe plus. Donc, Elf Aquitaine avait encouragé certaines guerres civiles en Afrique, par exemple dans le Congo-Brazzaville, de manière à pouvoir y étendre sa prospection et avoir des concessions supplémentaires en matière pétrolière. Bon, elles ont, là, on peut parler là d'un acteur géopolitique à l'échelle du Congo-Brazzaville, bien sûr, mais d'un acteur géopolitique à part entière.
Il y avait Elf Gabon qui était, on disait, oui, qui était quasiment
alors,
le...
Voilà. Voilà un autre exemple d'un lien très étroit avec un pays. Mais vous voyez, dans le cas du Congo, ça va plus loin, parce que c'est vraiment une action. Elf Aquitaine, dit-on, soutenait, finançait, etc., l'un des trois groupes tribaux qui se combattaient au milieu des années 90 dans ce Congo-Brazzaville. Et puis, il y a une autre façon d'agir pour eux, et là, c'est encore plus subtil. C'est qu'ils sont en même temps les bras armés des États. Donc, il y a une sorte d'hybride qui se forme entre ces grandes entreprises et les administrations qui les coiffent, dans lequel se mélange intérêt national, la sécurité des approvisionnements, le développement d'une technologie nationale indépendante, et d'autre part, intérêt d'entreprise. Alors là où c'est tout à fait exemplaire, c'est dans un pays comme la France, qui a longtemps eu, pour ses secteurs clés, des entreprises publiques, où là, il y avait à la fois, en même temps, elles appartenaient à l'État, qui était leur patron, donc il y avait bien une logique étatique. Mais même s'il y avait une logique étatique, c'était des entreprises qui avaient le souci de la rentabilité, de l'équilibre, du profit. Bon. Et donc, dans le cas d'Elf Aquitaine, c'était tout à fait exemplaire. On a souvent dit qu'Elf Aquitaine était aussi le bras armé dans certaines régions de la politique de la France, que les bureaux d'Elf Aquitaine en Afrique, par exemple, étaient truffés d'agents de renseignement travaillant pour le gouvernement français. Et les liens même allaient beaucoup plus loin, avec une sorte de symbiose avec le pouvoir politique qui faisait que, bon, on l'a souvent dit aussi, les dirigeants du parti qui avait perdu le pouvoir, un certain nombre d'entre eux retrouvaient une place de conseiller quelconque au sein d'Elf Aquitaine qui leur permettait d'entendre, ou les enfants, etc. Donc la symbiose allait très loin. Donc dans ce cas-là, on a quasiment une sorte d'hybride administration-entreprise qui fait la géopolitique de qui ? De l'entreprise, de la nation, prioritairement de la nation sans doute, mais un peu des deux. Et puis, on a des entreprises qui peuvent avoir leur logique propre et agir même, avoir même une stratégie dans certains pays particulières.
Grégoire Gambier.
Oui, juste, on touche là du doigt la notion d'influence qui est parfois, dans une certaine littérature, est opposée à la puissance, en disant que voilà, c'est la puissance de demain. Bon, je pense que sur Radio Courtoisie, vous-même, vous n'y croyez pas trop. Mais justement, en revanche, le lien entre puissance et influence, comment s'établit-il en géopolitique, puisqu'on voit bien que des intérêts privés peuvent être les bras armés des États de façon indirecte, donc lorsque c'est nécessaire. Et très concrètement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, est-ce que la France, dont on sait que c'est une puissance qui devient moyenne, hein, malgré sa brillante campagne de Libye, a-t-elle encore les moyens d'une influence, en tout cas, qui longtemps a été la sienne, c'est-à-dire de l'influence est pesée un peu plus que ce que l'on pèse réellement. Enfin, est-ce qu'en termes géopolitiques, ça se tient à long terme ?
Alors, il y a effectivement, ça c'est un apport que j'aurais pu citer tout à l'heure, des analyses récentes. Bon, on distingue de plus en plus deux grandes formes de puissance, de grands aspects. Le hard power, le soft power, bon, ça vient d'un analyste américain célèbre.
Vous allez mettre 2 euros là, ouais. Sur la table, là, Pascal Gauchon.
Donc, oui, mais c'est difficile à traduire. Là,
oui, non,
et l'influence, très clairement, relève plus du soft power, quoique la menace peut être une forme utilisée par l'influence. L'influence, c'est une notion plus large, donc en un mot que soft power, mais bon. Très largement, ça arrive du soft power. J'ajouterais qu'à mon avis, il y a une troisième forme de puissance que j'appellerais, de plus, le gold power. La puissance économique et la capacité d'influence par l'économie me semble être quelque chose à la fois différent du soft power, qui est l'influence, la séduction, disons tout simplement, et que l'influence brutale. Alors, ce que je pense d'abord de l'influence, c'est que c'est quelque chose de déterminant, mais j'aime bien une formule d'Al Capone, qui est un grand géopolitologue américain qui s'est illustré dans l'entre-deux-guerres, qui est la suivante. On peut obtenir beaucoup avec un sourire, mais encore plus avec un sourire et un fusil. Donc, le fait que dans un monde, encore une fois, où l'affrontement direct entre grandes puissances paraît difficile, le fait que le hard power, du coup, soit un peu marginalisé. Pas tant que cela, il n'y a qu'à voir les dépenses militaires effectuées par les États et l'effort, par exemple, de la Chine pour rattraper sur un plan militaire les États-Unis. Elles s'en sont encore loin, puisque les États-Unis font à eux seuls, un autre élément de réponse à ce qu'on disait tout à l'heure, 45% des dépenses militaires mondiales. Donc ça fait quand même là une assez grande supériorité. Donc le fait que le hard power soit un peu marginalisé, peut-être, n'exagérons pas. En dernier ressort, la force est la force. Et la force n'est pas simplement la séduction et le sourire. Cela dit maintenant, l'influence, effectivement, et en partie l'influence d'un modèle, l'influence d'un art de vivre, est quelque chose qui joue un rôle important. C'est Joseph Nye qui a une formule que je cite de mémoire, mais qui est à peu près la suivante. Ceux qui regardent nos films, vont aux États-Unis, vont dans nos universités, etc., ne nous combattront jamais, ne nous ferons jamais la guerre. Bon. Un peu illusoire, il suffit de voir le nombre d'étudiants du tiers-monde qui sont allés étudier à l'université Lumumba en URSS dans les années 60-70 et qui sont revenus anti-soviétiques et anti-russes pour constater que ce n'est pas aussi si simple et ce n'est pas parce qu'on va aux États-Unis qu'on est censé tomber en pâmoison devant le pays et se dire « Oh mon Dieu, quel pays extraordinaire !» C'est peut-être un peu plus compliqué. C'est peut-être un peu une forme un petit peu de naïveté, de naïve, de croire cela et de croire que dès qu'on mange un hamburger, on se dit « Ah mon Dieu, plus jamais je ne mangerai autre chose de ma vie. »
Allez, braves gens. Voilà, c'est bon, il nous reste que quelques minutes. Il y a un aspect qui est assez intéressant qu'on voit rarement en géopolitique, c'est la religion. Alors, on l'a vu bien sûr avec le fameux choc des civilisations. Il y a une géopolitique des religions. Je dirais, en dehors de l'islam, est-ce que les chrétiens, les protestants, il y a une religion bien précise, géopolitique ?
Directement, indirectement. Directement, bien sûr, dans la mesure où les religions, soit sont des religions qui cherchent à convertir. Et à partir de ce moment-là, il y a des stratégies d'expansion.
Cela, ça dépasse les nations.
La logique géopolitique, bien sûr. Soit dans la mesure, au contraire, où elles s'identifient à un peuple. Très fortement, on pense au shintoïsme. Les Japonais n'ont jamais essayé de convertir quiconque au shintoïsme. Mais inversement, c'est un élément de l'identité dont on a rappelé tout à l'heure qu'elle était importante en géopolitique, de l'identité d'un peuple. Donc oui, il y a une action directe des religions et puis il y a une action indirecte des religions. C'est par le biais des civilisations. Ce n'est pas hasard si nous avons tendance à définir toutes les grandes civilisations sur la base des grands ensembles religieux. Effectivement, les religions sont, qu'on le veuille ou non, ce qui a profondément imprégné les cultures, les civilisations, inspiré le droit, inspiré la façon de vivre, inspiré les rapports entre hommes et femmes, la société. Bon, cela a profondément inspiré, de façon diverse à travers le monde, les différentes sociétés humaines. Donc les civilisations sont en très grande partie à base religieuse, y compris dans des régions qui paraissent avoir rompu partiellement avec leurs racines religieuses. Je pense à l'Europe, qui est un continent un petit peu exceptionnel de ce point de vue-là. Bon, même en Europe, les racines religieuses sont essentielles pour comprendre la civilisation.
Oui, parce qu'effectivement, je pensais surtout par exemple à l'Amérique du Sud, où on a vu une mainmise maintenant dans certains pays comme le Brésil de sectes protestantes qui prennent la mainmise sur le catholicisme. Est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte par les nations américaines à ce moment-là?
Alors, deux choses différentes. Il y a une logique, donc, d'une part des églises protestantes qui cherchent à s'étendre et qui jouent. Alors, il y a une stratégie géopolitique, ils jouent de certains pays plus que d'autres. Bon, ils ont quasiment, vous le savez, conquis le Guatemala, hein, qui est maintenant presque à moitié protestant, hein, vieux pays catholique. Il y a toujours eu quelques bastions protestants, luthériens, etc. Mais là, c'est une vraie lame de fond. Bon, et puis, ils cherchent à s'implanter, c'est pas un hasard s'ils cherchent à s'implanter dans un pays comme le Brésil, là, actuellement, qui est évidemment la puissance dominante du continent. Et il y a une stratégie sociale aussi. Il s'appuie sur certains milieux sociaux. Il y a une stratégie médiatique. Bon. Et puis alors, ce que vous voulez dire sans doute, c'est est-ce que cela peut être manipulé par les États-nations? Oui, comme toujours, bien sûr. Copie en aille, nous pourrions dire, ceux qui vont dans un temple évangéliste ne nous feront jamais la guerre. On peut penser aussi cela.
Ouais, une dernière question, je sais pas, Grégoire.
Oui, juste pour revenir à l'Europe, qui intéresse nos auditeurs des chroniques de la vieille Europe.
Ah oui.
Certains auteurs, plutôt libéraux bien sûr, et de tendance atlantiste, estiment qu'il y a une césure profonde et définitive au sein de l'espace européen, hein, malgré tout, enfin, au-delà de toutes les autres raisons pour lesquelles il n'y a pas d'unité européenne, c'est la césure entre le monde orthodoxe, slave, continental, et le monde catholique. Bon, parce que les protestants ont le bon goût, parce que c'est plutôt une thèse protestante, de se mettre au second plan. Et donc, rien que ça. Et donc, plutôt avec des arguments géopolitiques, hein, le territoire, l'espace, la civilisation, la durée, la longue mémoire. Est-ce que vous croyez à ce type de thèse, d'analyse, ou vous pensez que, là, pour le coup, le mouvement, le flux, peut aussi avoir son rôle
Alors, c'est vrai que c'est une coupure très ancienne, hein, et qui, effectivement, a été, je dirais que le long de cette faille a rejoué à différents moments de l'histoire. Parce que c'est à la fois la coupure d'un côté du monde orthodoxe et, pendant un temps, musulman, et le monde catholique protestant, puis une partie en dissidence protestante. C'est la coupure entre le monde germanique, les empires austro-hongrois, allemands, et empire russe ou ottoman. C'est la coupure, il faut bien le dire, en tout cas pour le 19e siècle, du développement entre un Ouest qui réussit son industrialisation non seulement en Allemagne, où c'est bien connu, mais aussi dans de larges pans de l'Autriche-Hongrie, et un Est qui, bon, la Russie ne commencera vraiment à s'industrialiser qu'à l'extrême fin du 19e siècle, et pour l'Empire ottoman, bon... absolument pas du tout. Donc c'est une, je dirais que c'est en plus une faille qui a rejoué à différents moments de l'histoire. Donc elle est très forte, évidemment. Maintenant, les réalités géopolitiques changent et les failles sont faites pour s'ouvrir ou pour se refermer. On a parlé d'une faille qui s'est ouverte à un moment donné, la faille de la Méditerranée provoquée par l'islam. À l'inverse, je dirais pas la faille, mais les faibles relations qui existaient entre l'Europe, disons, méditerranéenne et centrale, et l'Europe du Nord, ben, à ce moment-là, et entre autres avec l'expansion du christianisme, cette faille ou cette frontière, disons, cette marche plutôt, a été peu à peu réduite. Donc, rien ne dit que... Mais il faudra du temps, certainement. C'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Rien ne dit qu'une rupture ancienne est obligé de perdurer perpétuellement.
Merci Pascal Gauchon. Je rappelle le titre de votre ouvrage collectif, Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie. Vous avez annoncé qu'il y avait un site internet pour l'actualisation. Oui, c'est au PUF. Merci Lucien Valdez. Vous avez annoncé un site internet pour l'actualisation. Je l'ai pas trouvé.
Dans la collection Major.
Ah bon, c'est là-dedans qu'il faut trouver. Non, le site internet.
Effectivement, le site est en train de se construire.
Ah bon, d'accord.
Il y a un ou deux éléments, mais très peu pour l'instant.
D'accord. Donc, ok. Mais ça permet de savoir que.
C'est au fur et à mesure qu'effectivement il y aura besoin d'actualiser. L'ouvrage est encore assez récent, donc le problème d'actualisation ne se pose pas encore trop. Mais déjà, par exemple, pour un pays comme la Libye, il faut commencer à actualiser.
J'ai bien vu le président du FMI, c'est plus le même.
Ah oui, il y a aussi un
Que sais-je que vous avez sorti cette année, le modèle français depuis 1945, et Grégoire Gambier a aussi un autre livre de.
Oui, tout simplement dans les nombreuses activités de Pascal Gauchon, hein, parce qu'il est aussi directeur effectivement de la collection majeure au PUF, qui est une collection conséquente et bien connue des étudiants, ou quand elle est mal connue, et ben c'est au sacrifice de leurs études, donc tant pis pour eux.
Merci.
Vous animez aussi l'association ou la fondation Antaios qui organise chaque année un festival de géopolitique, et je voudrais signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie le rapport Antaios 2011, Vive la France quand même. C'est le titre du rapport. Les atouts de la France dans la mondialisation. C'est une lecture qui peut être un peu rafraîchissante en ces temps de nouveau retournement de la conjoncture et de dégradation de notre situation, des comptes publics et de notre position.
Oui, et comme vos lecteurs l'ont remarqué, nous avons tout à fait volontairement repris la vieille formule des ultras après 1815, vive le roi quand même, et ça veut dire exactement la même chose. C'est que la formule est moins optimiste,
oui.
On pourrait le voir. Nous ne sommes pas évidemment enthousiastes de toutes les évolutions de la France, mais comme disent les Américains, mais là je vais le dire en français parce que je ne voudrais pas me ruiner totalement, comme disent les Américains, bon ou mauvais, c'est mon pays.
Donc vous êtes à l'antenne de Radio Courtoisie sur les chroniques de la vieille Europe et nous allons faire une petite pause musicale et retrouver l'actualité européenne. Deuxième et dernière partie des chroniques de la vieille Europe, toujours sur l'antenne de Radio Courtoisie, en compagnie toujours de Lucien Valdez, Philippe Christel et Grégoire Gambier. Et mon cher Philippe, je vous cède la parole pour une tournée européenne de l'actualité. On commence par...
Merci Patrick, on va commencer par l'Europe du Nord. On va quitter les rives de la Méditerranée. Et puis pour vous citer peut-être un certain nombre de nouvelles, d'informations qui sont tout à fait récentes.
Des élections.
C'est le principe de l'actualité. Et qui montrent quand même que... Je ne vais pas commenter ici l'effondrement ou l'ébranlement du système financier européen, mais derrière cela, il y a d'autres tressaillements, il y a d'autres ébranlements, et qui montrent que le glacis européiste est en train de se fissurer. D'abord, je voudrais citer un élément qui me paraît le plus important, c'est une modification sur la scène politique allemande. Je fais court, la chancelière Merkel subit depuis maintenant six élections et recul de sa coalition, une coalition qui est l'entité chrétienne-démocrate avec son parti qui est la CSU bavaroise et en alliance avec le parti libéral, le FDP, qui est le parti traditionnellement pro-européen, traditionnellement intégrationniste, fédéraliste. Eh bien, depuis un certain nombre de scrutins et de manière assez injuste par rapport à la relative bonne santé économique de l'Allemagne, donc la coalition de droite subit un certain nombre d'échecs et qui se concentre surtout sur le FDP. Le FDP qui a été très fragilisé par les propos de son président Guido Westerwelle, qui est le le ministre des Affaires étrangères. Et donc le nouveau FDP est arrivé, semble-t-il, pour essayer de regagner les suffrages des Allemands. Et la carte que joue le FDP, qui l'eût cru, commence à être une carte résolument européenne et anti-européenne, eurosceptique. Et anti-euro. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le nouveau patron de M. Rössler, qui est également le ministre de l'économie et vice-chancelier, commence à marteler régulièrement que pour stabiliser l'euro, il ne doit plus y avoir à court terme d'interdiction de penser à certaines options, ça veut dire sortir la Grèce de l'euro. Le député libéral Schäffler, qui est le chef de file des eurosceptiques, se bagarre pour empêcher la création d'un mécanisme permanent de stabilité. Vous savez, c'est ce mécanisme qui est destiné à prendre le relais, à partir de 2013, du fameux Fonds européen de stabilité. Il veut qu'on installe un système prévoyant une sortie de la zone euro. Et enfin, il répète partout sur les ondes que la phrase d'Angela Merkel qui dit que la fin de l'euro serait la fin de l'Europe, considère, il qualifie cette phrase comme la plus fausse de ce début de siècle. Ce qui est intéressant, c'est que donc on voit clairement que sur la scène politique allemande, on le savait puisque la CSU commençait à exprimer quelques tendances qu'on pourrait qualifier de souverainistes. On a vu toute l'inquiétude qu'il y a eu sur le vote par l'aval donné par la Cour fédérale de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe sur le plan d'aide des Allemands, le plan d'aide de la Grèce financé par l'Allemagne. Maintenant c'est la CSU, maintenant c'est les FDP. Voilà, il y a des tendances scissionnistes à l'intérieur du bloc pour l'instant majoritaire allemand, et c'est une évolution qu'il faudra suivre de très près. Autre évolution qu'il faut suivre et qui, là encore, bat en brèche les volontés ou les règles ou prétendues telles européennes, c'est la Hongrie. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous décrire les diverses mesures que le gouvernement de Viktor Orban, largement majoritaire, gouvernement de droite, largement majoritaire suite aux dernières élections, mesures qu'il prend régulièrement pour sortir son pays très endetté des griffes du FMI et des règles de Bruxelles. Eh bien, M. Orban est allé encore plus loin, avec une nouvelle entorse aux règles très libérales de l'Union européenne, et par un système assez astucieux qui consiste à installer un mécanisme de taux de change fixe préférentiel pour les ménages hongrois, de manière à ce qu'ils puissent rembourser leurs emprunts hypothécaires contractés dans les monnaies étrangères, notamment en franc suisse, de manière donc avec un taux avec une différence de 20% par rapport au prix du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que près d'un million de Hongrois qui ont souscrit des crédits en monnaie helvétique, par exemple en euros ou en yens, à l'époque de la spéculation et de la dérégulation absolue, vont être autorisés par le gouvernement à rembourser leurs crédits par anticipation avec un taux qui sera favorable et qui devra donc être refinancé par les établissements emprunteurs, qui sont très précisément les banques principalement autrichiennes ou un petit peu allemandes. Et donc voilà encore en soi, ça n'est pas très intéressant parce que c'est une logique de technique qui vise quand même à désendetter un million de ménages si ça fonctionne. C'est simplement une mesure bancaire qui vient s'ajouter à la taxe exceptionnelle imposée aux banques et aux grandes entreprises multinationales, au fait qu'on a rapatrié 11 milliards d'euros des fonds de pension privés dans les caisses de l'État. Bref, on a là une mesure hongroise, alors c'est un petit pays, mais dont on sait pertinemment qu'elle est prise au mépris total des règles libérales de l'Union européenne. On voit bien, sans que ce soit tout de suite le coup de pied de l'âne, on voit bien que là encore, nous avons un gouvernement qui, pour respecter sa souveraineté nationale, cherche à faire fi des règles particulièrement contraignantes de l'Union européenne.
Et il y a eu une réaction de l'Europe
tout le monde est outré, oui. Si vous voulez
voilà,
la réaction. D'accord. Je vous confirme que tout le monde est outré.
Ils sont outrés.
Voilà. Ils sont outrés. Ils vont quand même se prendre une ardoise de 6 milliards d'euros, les banques autrichiennes. Enfin, personnellement, je serais banquier autrichien, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est assez agréable.
Oui, puis ça serait, Philippe.
Autre élément, aux Pays-Bas. Autre élément aux Pays-Bas, alors là, c'est un sujet différent. Vous savez que aux Pays-Bas, la coalition au pouvoir est une fragile coalition, mais qui tient beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on aurait pu imaginer. Une coalition entre une majorité libérale chrétienne démocrate soutenue par le fameux parti de Geert Wilders, le parti de la liberté. Aujourd'hui, plutôt la semaine dernière, le 16 septembre, eh bien, le ministre néerlandais de l'immigration et de l'asile vient de dévoiler une politique anti-immigration qui consiste en un très vigoureux tour de vis à l'encontre des étrangers. Je vous donne quelques règles qui paraissent de bon sens, mais enfin qui sont en tout cas un tour de vis. Un étranger serait renvoyé vers son pays d'origine dès sa première condamnation s'il séjourne aux Pays-Bas depuis moins de 3 ans. Une personne condamnée 3 fois en l'espace de 3 ans serait automatiquement reconduite à la frontière. L'auteur d'un crime grave serait définitivement banni, etc., etc. Le ministre entend aussi limiter le gouvernement familial aux conjoints et aux enfants mineurs avec un délai minimum d'un an. S'il n'est pas marié à son arrivée, il devra attendre 5 ans pour obtenir un titre de séjour, etc., etc. Et enfin, M. Leers, qui est le ministre, va plus loin en disant que les Pays-Bas mettraient leur veto et rejetteraient toute demande d'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace sans frontières de Schengen. Et là encore, débat animé aux Pays-Bas, puisque en gros, on nous explique, et les juristes les plus renommés nous expliquent que ces dispositions risqueraient d'être cassées par la justice européenne et que, dans de nombreux cas, il sera impossible d'expulser les personnes en question. Et voilà un troisième élément qui prouve que le carcan législatif ou réglementaire qu'impose l'Union européenne est de plus en plus remis en cause partiellement par les États.
Et que derrière, il n'y a aucune sanction possible de la part de l'Europe.
Bien sûr qu'il n'y a aucune sanction possible de la part de l'Europe. On est, sans jouer les prédicateurs de catastrophes, on arrive quand même à un moment absolument fascinant, et je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, et je l'ai évoqué tout à l'heure avec Pascal Gauchon sur la guerre du gaz et la politique des gazoducs. On est à un moment où l'Union européenne cherche à obtenir le consensus le plus absolu des 27 membres pour financer le plan de soutien à la Grèce. Je ne parle même pas des concessions que France et Allemagne voudraient obtenir. Je parle simplement de pays comme la Slovaquie ou la Finlande, qui, soit par désintérêt, soit par situation économique personnelle fragile, n'ont que faire de financer le trou sans fond des Grecs. Et on voit arriver des sondages qui disent que 63% des Allemands ne veulent plus payer pour les Grecs. Maintenant, je crois, j'en ai vu un, c'est 58% des Français. Et donc, on va arriver à une idée où cette Europe, au-delà d'être un Éden économique qui devait être un système préparant la concorde, la paix et la félicité entre les peuples européens, on va voir ressurgir un certain nombre d'antagonismes fondés sur une absence de solidarité louable, mais qui va finir par devenir une tension. C'est quand même on va probablement finir par aboutir sur le développement de ce type de comportement, ce qui est quand même pas ce dont avait rêvé Jacques Delors et consorts. Autres éléments que j'aurais pu citer, puisque vous avez vu que depuis la fin du mois d'août, le Danemark a suspendu Schengen pour se prémunir contre les afflux d'immigrants. Et le Danemark, c'est intéressant d'y passer 30 secondes parce que la presse française s'est littéralement enthousiasmée sur la victoire de la gauche. Donc effectivement, la gauche est revenue au pouvoir au Danemark. Et c'est d'ailleurs avec une très très courte majorité que les sociaux-démocrates danois ont remporté les élections législatives après à peu près 10 ans d'un gouvernement de droite soutenu par le Parti du peuple danois, qui d'ailleurs continue à maintenir un excellent score avec plus de 12% des voix.
Et oui, la baisse est légère.
Très, très courte baisse, enfin, sachant qu'il s'agissant d'un pays qui soutient 10 ans dans la logique d'une alternance démocratique, on peut considérer que cette baisse est tout à fait relative. Ce qui est intéressant, c'est que, donc évidemment, on nous a bassiné sur le fait que l'électeur danois en avait marre de la stigmatisation des étrangers, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que les premières déclarations, alors il faut lui laisser un petit peu de temps pour le cas échéant faire l'inverse de ce qu'elle dit, mais les premières déclarations de la nouvelle Premier ministre danoise nous rassurent sur le fait qu'elle ne compte absolument pas revenir sur les mesures prises par le Danemark en matière d'immigration. Et je vais quand même vous en citer quelques-unes, puisque c'est probablement une des lois les plus restrictives au monde. Alors la comparaison n'est pas faite sur l'ensemble des législations, mais je vais vous donner quelques éléments. Vous allez voir, vous qui allez rentrer en métro ce soir, ça va vous faire rêver. Pour qu'un Danois puisse épouser un étranger hors Union européenne, les deux conjoints doivent avoir plus de 24 ans, disposer d'un logement de taille décente, ne pas avoir bénéficié d'allocations depuis 3 ans. Ils doivent prouver que leur lien avec le Danemark est plus fort qu'avec tout autre pays, déposer une garantie bancaire d'environ 13 000 € pendant 4 ans, et bien évidemment avoir un casier judiciaire vierge et réussir le test de langue et de culture générale danoise, qui d'ailleurs est payant. Donc voilà, par exemple, ce type de je peux dire, un test de culture générale danois payant. Là, vous pouvez commencer à vous accrocher sévèrement quand vous arrivez, et que vous arriviez d'ailleurs d'Aubervilliers ou du Burundi, ce qui parfois revient au même.
C'est peut-être plus facile d'être monégasque que danois, presque.
C'est possible. Et j'en profite, pardonnez-moi, mais comme on rentre aussi, je vais faire une incursion franco-française, mais comme on rentre dans une zone électoralement chahutée, là encore, vous m'empêcherez pas de commenter le fait que tant l'impact du parti de Geert Wilders sur la politique et les mesures prises aux Pays-Bas, que le bénéfice de ce que j'ai décrit, qui font partie des acquis du Parti du Peuple danois dans la coalition de droite, montre quand même qu'il y a une certaine manière, quand on est une droite nationale ou populiste, appelons-la comme on veut, de construire quelque chose avec un parti au pouvoir. Et ça me paraît, ça en tout cas, particulièrement efficace. Et je doute que nous soyons aussi bien inspirés en France. Fin du commentaire franco-français. Autres éléments que je voulais aborder avec vous, puisque nous en parlons régulièrement, c'est la guerre des gazoducs. Je ne vais pas revenir, mais vous savez,
en début d'année, allez-y.
Non, mais je crois que j'en parle à chaque fois, donc ça va finir par lasser. Mais là,
mais ça fait deux mois que vous n'êtes pas passé.
C'est vrai.
Non, mais c'est pas grave, c'est une histoire de flux, donc il faut que ça revienne tout le temps.
Ouais. Exactement, c'est le principe du flux, ça rentre, ça sort. Et résultat, vous le savez, le 7 septembre dernier, nous avons assisté avec joie, on aurait bien aimé y être, à l'inauguration très officielle en présence de Vladimir Poutine et de Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand.
Vous n'étiez pas invité, Philippe Christel.
Non, je n'étais pas invité. Je trouve ça scandaleux d'ailleurs.
Avec votre carte de presse de Radio Courtoisie.
Donc le gazoduc Nord Stream a été inauguré, vous le savez. C'est celui qui va acheminer dès 2012 le gaz russe vers l'Allemagne en évitant soigneusement l'Ukraine, mais en évitant également la Pologne et les Pays-Baltes. Vladimir Poutine, qui n'a pas l'habitude de mettre sa langue dans sa poche, l'a dit clairement. Petit à petit, nous allons nous débarrasser du diktat des pays de transit. Voici, c'était l'intérêt majeur de ce pays, de ce gazoduc. L'autre enjeu, c'est en fait de continuer à contourner l'Ukraine. L'Ukraine étant le pays par lequel, traditionnellement, les gazoducs russes servaient l'Europe via ce très fameux gazoduc de l'amitié entre les peuples. Dit Brotherhood, en ukrainien, semble-t-il. L'enjeu, vous connaissez l'histoire, depuis, avec la révolution orange, l'enjeu de l'Ukraine a été, enfin la Russie a renégocié une partie des tarifs avec l'Ukraine, lui imposant un tarif que l'Ukraine considère être un tarif conçu pour un ennemi, qui n'est d'autre, c'est ça qui est rigolo, qui n'est d'autre que le tarif du prix européen, que l'Union européenne et Bruxelles imposent à la Russie de servir équitablement à l'ensemble de ses partenaires. Donc l'Union européenne, qui souhaite absolument sortir l'Ukraine de la gangue russe et de l'européaniser au maximum, eh bien, par sa mécanique ultra-libérale et d'uniformité des prix de marché, impose à la Russie un prix particulièrement agressif pour l'Ukraine. Ça, c'est assez rigolo. Et la vieille négociation entre les Russes et les Ukrainiens, c'est de dire, écoutez, on veut bien vous faire un prix d'amis, mais il va falloir nous céder le contrôle de votre réseau de gazoduc. Et les Ukrainiens, qui n'ont à peu près plus que ça à négocier, disent non. Sauf que maintenant que Nord Stream existe et que South Stream est en cours de construction, eh bien les Ukrainiens, semble-t-il, sont en train de céder. C'est une habitude chez les Ukrainiens et ce sera probablement confirmé lors de la visite de Viktor Yanukovych à Moscou le 24 septembre. C'est bien joli de vouloir être indépendant, mais quand on n'a pas les moyens de sa politique, on reste tranquille chez soi.
Oh, vous êtes un peu dur quand même. Oui. Hein, ils sont redevenus amis entre-temps, il y a eu des élections.
Oui. Mais nos auditeurs ukrainiens doivent savoir...
Nous en avons.
Doivent savoir que l'indépendance de l'Ukraine est une vaste fumisterie germée dans les cerveaux de Yale, du département d'État ou de Bruxelles. Ouvrez à la page Ukraine le dictionnaire de la géopolitique et de géoéconomie et de Pascal Gauchon, vous risquez d'être surpris. Maintenant, si vous voulez rêver, lisez Benoît Méchain, je vous le conseille.
Et donc, c'était une autre époque. Oui. Écrivait Benoît Méchain, hein, c'était la République indépendante pendant la guerre civile.
Pourquoi qu'il aurait été en désaccord avec vous
J'entends bien. Il n'empêche, écrite il y a 50 ans, l'histoire de l'Ukraine était la même. Bien.
Dire simplement aux auditeurs que Philippe n'a aucun intérêt dans le gaz ou dans les etc.
Il n'a même pas été invité.
Il n'a pas été invité.
Comme tous les foyers qui professionnellement, sont pas, vous avez vu cette augmentation du gaz réservée aux foyers qui ne sont pas des foyers en difficulté financière. Enfin donc, on va prendre l'augmentation du gaz comme tout le monde. Vous inquiétez point.
Voilà. Pas pour GDF. Alors,
simplement pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je ne dirais pas parce qu'il y a effectivement il y a une page entière dans le dictionnaire copieux de géopolitique et géoéconomie dirigé par Pascal Gauchon. Une petite entrée, Ukraine, en effet, État slave d'Europe orientale, jusque-là tout va bien, dont l'histoire est étroitement liée à celle de la Russie. Et après, il y a un long développement.
Voilà.
Voilà. C'est dit en termes un peu plus mesurés, Philippe Christel.
Mais c'est ça la géopolitique.
Moi, je ne suis pas géopoliticien.
Géopolitologue, non plus.
Oui, je suis peut-être plus géopoliticien que géopolitologue.
Alors, vous nous amenez où?
Oui, mais écoutez, je remonte le fil, donc j'arrive tranquillement à Moscou. Parce que, après avoir parlé des sous-préfectures de l'Ukraine, on va parler maintenant de la capitale. Alors là encore, les médias s'émeuvent. Vous savez que tout le monde aimerait bien savoir qui de Poutine, de Medvedev va être candidat. Donc, les combinaisons semblent se dessiner. Il semblerait effectivement qu'un retour de Vladimir Poutine soit inéluctable. On dit même que le point de chute de Dmitri Medvedev a été trouvé avec ce poste de président de la Cour constitutionnelle. Alors ce qui embête beaucoup les observateurs, c'est que une fois de plus, c'est un attelage souverainiste, si j'ose dire, libéral, qui est choisi, puisque Vladimir Poutine ferait équipe avec son actuel ministre des Finances, Alexei Koudrine, qui a tout pour plaire, puisque c'est celui qu'on envoie dans les forums internationaux. Il n'a pas la tête de l'apparatchik formé dans les écoles viriles du FSB. Et donc, surtout lui qui a aidé la Russie à traverser avec succès la crise de 2008. Alors, bien évidemment, il faut se méfier parce que le principe du troisième homme ou du deuxième ou du quatrième est quand même une constante dans le choix des têtes chez nos amis russes. Et ceci jumelé avec l'inculture crasse de la presse occidentale sur le sujet, ça peut nous laisser un certain nombre de surprises. Mais quand même, il faudra, si cette option est confirmée, à savoir le retour de Vladimir Poutine, qui sera élu sans difficulté puisqu'il dispose d'un taux de popularité que n'importe quel dirigeant européen lui envierait, on aura quand même assisté depuis 4 ans, avec ce ticket Medvedev-Poutine, à une complicité, une solidarité sans faille, et une abnégation de ces deux hommes par rapport aux sirènes du pouvoir, le fameux pouvoir qui rend fou, qui a probablement peu d'égal dans les gouvernances européennes actuelles et même de ces 50 dernières années. Et donc attendons de voir le résultat. Je serai démenti si effectivement dans les mois qui s'ouvrent on assiste à un déchirement absolument sanglant entre Dimitri et Vladimir. Mais je pense qu'il y a là une leçon de constance, de stabilité, de prévisibilité du gouvernement russe qui est plutôt de bon augure et qui donnera plutôt raison à ceux qui organisent et travaillent avec lui. Et j'en veux pour preuve la boutade, pour une fois, les Français se sont placés au bon endroit, puisque le président de notre Caisse des dépôts et consignations, figurez-vous, se rend à Sotchi cette semaine pour lancer avec Vladimir Poutine la fameuse société franco-russe de développement touristique du Caucase. Vous en avez parlé à l'époque, vous vous étiez moqué. Eh bien, je vous signale que cette société va être capitalisée à hauteur de 10 millions d'euros, que c'est 15 milliards qui vont être levés, que le directeur général de la CDC est accompagné de 47 patrons français, bref. On n'est pas sur tous les coups, on ne peut pas vendre des Mistral toutes les semaines, mais il y a quand même des coups à jouer, et c'est ça qui est intéressant. Et puis s'il le fallait, pour la boutade et dans la rubrique « Mais de quoi je me mêle », je voulais quand même vous indiquer la sortie d'un rapport du département d'État américain qui a été publié avant-hier et qui se plaint du fait que l'Église orthodoxe russe connaît une influence politique croissante en Russie. C'était la rubrique « De quoi je me mêle ?» Mais ce n'est pas très éloigné, de ce que nous disions tout à l'heure avec Pascal Gauchon en termes géopolitiques, et deux, de ce à quoi voulait arriver le très lucide Grégoire Gambier sur sa géopolitique des religions.
Oui, ils ont raison, ils essayent, hein. Jamais, ils n'avaient peut-être rien d'autre à dire. Vous avez encore quelques minutes.
Oui, quelques éléments. Cette fois-ci, on va parler un peu défense européenne. Il faudra être très attentif ces jours prochains, puisqu'il faut suivre de près les modifications du capital de ADS. Tout à l'heure, Pascal Gauchon a parlé de quelques industries, notamment sur les technologies, les hautes technologies ou les technologies de défense. Je ne rappelle pas ce qu'est EADS, cette espèce de miracle franco-allemand. EADS, c'est la maison mère d'Airbus, qui est en train cette année de pulvériser le Yankee Boeing. Eh bien, EADS a une difficulté que n'a pas Boeing, c'est la structure de son capital. La structure de son capital... L'allemand Daimler avait été le partenaire historique, sauf que Daimler a autre chose à faire que d'investir à fond perdu dans cette entreprise et veut vendre aujourd'hui la moitié de la part qu'il détient, c'est-à-dire 7,5% du capital. En face, c'est le partenaire français de l'époque qui avait été choisi, c'était Jean-Luc Lagardère, représenté maintenant par son crétin pitral de fils qui s'intéresse aux nouvelles technologies et se ridiculise sur Internet.
Au sport, surtout.
Hein. C'est scandaleux, c'est vraiment, jusqu'où tomberons-nous plus bas?
C'est le problème des héritiers. Hein.
Ouais, c'est jamais à la hauteur. C'est le problème des héritiers, absolument. Comme disait le bon vieux président Sarkozy, les héritiers sont faits pour être guillotinés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme plus personne n'a un rond dans le secteur, ça ne vous aura pas échappé, c'est le Qatar qui est candidat pour racheter soit 7,5, soit 15% du capital de ce bel outil. Alors heureusement, il faut toujours compter sur le chauvinisme des uns et des autres, à défaut de vision stratégique, et donc le gouvernement allemand dit quand même que ce serait pas mal que ce soit un Allemand qui rachète la part d'un Allemand. Faut pas rigoler.
Ça, pour une fois,
et
c'est donc, bien.
Et Daimler a démenti aujourd'hui.
Aussi. A démenti quoi ?
A démenti l'information.
A démenti qu'il vendait ?
Oui, exactement, au Qatar.
Ah, au Qatar. Qui vendait au Qatar, non, mais.
Exactement.
Mais
ils vendent.
Il n'y a pas eu d'information comme quoi ils vendraient au Qatar. Il y a eu des négociations, sachant que la chancelière, elle a envie d'impliquer la banque publique KfW, qui doit être la Kampf für Wirtschaftsbank, un truc comme ça, combat pour l'économie. Bref.
Joli nom de banque.
Non, c'est défense.
Ouais. Alors, soyons sérieux avec les auditeurs, c'est un gag de la part de Philippe. Ouais, ouais. Cette banque ne s'appelle pas comme ça. Non. Vous avez encore une petite minute, mais rapide.
Hein. Bon, alors, dans ce cas-là, mais il faudrait le garder pour une autre fois. Nous avions reçu Tancrède Josserand, qui est vraiment l'analyste le plus spécialisé et le plus en vogue.
Qui a participé au dictionnaire.
Qui a d'ailleurs beaucoup participé au dictionnaire. Je crois qu'il y aurait vraiment un sujet à revoir sur le statut de leader régional qui est en train de conquérir la Turquie en visitant les pays du printemps arabe, en envoyant ses navires en Méditerranée, en déclenchant des forages sur Chypre, en se bagarrant avec Israël sur les gisements
Qu'on aille dans le sud.
Non, mais c'est intéressant.
Non, mais bien sûr.
Ça veut dire une chose, ça veut juste dire une chose, ça veut dire que la Turquie a clairement choisi, s'il n'y a plus de doute possible, la Turquie n'a que faire de vouloir rentrer dans l'Europe pour se heurter à Israël, pour se heurter à un certain nombre d'intérêts, même de politiques de voisinage européenne, c'est très clair. Elle n'a que faire de rentrer dans cette Europe. Elle va développer une autre puissance, il faudra faire avec, mais c'est au moins la bonne
Merci chose. À vous, Philippe, merci à tous. Fin de ces chroniques de la radio Courtoisie, on est en retard, nous nous retrouvons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleeurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright.